On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on jase de transport et de changement climatique avec notre chroniqueuse d'écologie intégrale, Ariane Beauferré. On va parler avec Ariane Beauferré d'écologie, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté, Ariane?
Aujourd'hui, je pensais parler de l'automobile privée, de l'électrification des transports et le lien avec le réchauffement climatique.
Parce que, faut le dire, il y a de cela déjà deux ou trois semaines, le 21 avril, on célébrait le jour de la Terre. Tout le monde a fêté ça en grand, sûrement en plantant un arbre ou en allant prendre une marche dans la forêt, ou peut-être pas. C'est drôle parce que parallèlement à ça, il y a la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui publie un sondage qui montre que les changements climatiques arrivent quand même au sixième rang des priorités pour les deux tiers des chefs des PME. Alors, Ariane, évidemment, on a tous entendu parler du changement climatique. Hein? C'est pas nouveau comme concept dans les médias. Tu peux nous rappeler peut-être brièvement, c'est quoi les causes de ces changements-là?
Ben déjà, il faut penser qu'on a un effet de serre naturel sur la planète, qui est naturel, comme je le dis.
Et qui est bon.
Oui, qui est bon. On a une température moyenne de 15 degrés Celsius parce que les gaz à effet de serre sont là et agissent un peu comme les vitres d'une serre, permettent au rayonnement solaire de rentrer. Et ils empêchent la chaleur qui est réémise par les continents et par les océans de tout repartir dans l'espace. On empêche à peu près 90% de repartir dans l'espace, et c'est ça qui fait qu'on n'a pas une température de la planète de moins 18 degrés. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle, on ajoute sans arrêt des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait que c'est comme si on rajoutait des vitres encore plus performantes à notre serre naturelle, puis que au lieu d'empêcher 90% de la chaleur de repartir dans l'espace, on arrive à un pourcentage plus élevé. Mmh. Et donc, par exemple, ces gaz à effet de serre, ils vont provenir du secteur énergétique, des industries, des transports. Au Québec, c'est surtout le secteur des transports qui est problématique.
Parce qu'on peut penser à, évidemment, la production d'énergie. Au Québec, on n'a pas nécessairement le problème des centrales au charbon ou des centrales nucléaires qui dégagent...
L'hydroélectricité, ouais. Les émissions de gaz à effet de serre sont quasiment nulles.
Donc, ce qui fait que la cause numéro un, c'est vraiment le transport des personnes.
On parle de à peu près 45%, suivi de l'industrie de 28%.
Alors, pourquoi vouloir atténuer le réchauffement climatique? Est-ce que c'est si problématique que ça?
Mais oui, c'est problématique parce que si on ne fait rien du tout, d'ici 2100, ça c'est des études d'Uranos, on va atteindre une augmentation...
Excuse-moi, qu'est-ce que c'est Uranos?
C'est un grand groupe de recherche québécois, beaucoup de partenaires qui étudient les changements climatiques principalement. Vraiment énormément de chercheurs et des études très solides. On va atteindre 4 à 7 degrés de plus au Québec en moyenne. Donc ça veut dire que l'industrie du ski, l'habitat du caribou, la fonte du pergélisol, la survie des cultures, tout ça va être mis vraiment en péril parce que 4 à 7 degrés, c'est beaucoup. Et ça va très très vite. Mais en plus de ça, Uranos là aussi a fait beaucoup d'études là-dessus pour voir s'il y a des opportunités par rapport au réchauffement, et les opportunités pour le moment sont toujours moins nombreuses que les effets négatifs. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas atténuer le réchauffement. Ça, c'est pour l'échelle du Québec, mais il y a aussi toute l'échelle de la planète. Et ça, par exemple, c'est le pape François qui l'a rappelé dans son encyclique, mais que le climat, c'est un bien commun pour tous, que si on ne fait rien pour atténuer ce réchauffement qui est solide et qui est basé sur un consensus scientifique énorme, les pires conséquences vont retomber surtout sur les pays en développement. Il va y avoir des pertes de biodiversité, d'écosystèmes.
Il y a de nombreuses populations, spécialement les populations les plus pauvres, qui habitent près des cours d'eau, et si le niveau de l'eau monte, ça a des impacts sur ces gens-là.
Il y a des îles entières qui vont probablement disparaître à cause du réchauffement.
Des inondations. Des
inondations, beaucoup de choses.
Puis, Alex Deschaine, oui.
Alors là, on quitte un peu le début du printemps, là, mais on a vu des inondations en Beauce,
même à Montréal,
ou même à Québec, récemment. Dans les rues. Mm-hmm. Bon, donc je me dis... Pas que je vois ça comme des signaux alarmants, mais si ça peut arriver des rues qui sont inondées, je me dis, mais voyons, si les niveaux de la mer montent, c'est pas juste des pays dont on veut pas entendre parler, ça peut très bien être nos villes aussi, à nous, là, qui peuvent être menacées des fois.
C'est un petit peu différent pour le Québec, pour les inondations, parce que le couvert de neige, on s'attend à ce que, pour le sud du Québec, en tout cas, il diminue Donc, il va y avoir des endroits où il va y avoir quand même
c'est
moins d'inondations.
C'est surtout la neige ici qui...
Oui, il va y avoir...
Il se peut même qu'il y ait moins d'inondations, finalement.
À certains endroits, il va y avoir des sécheresses intenses, en fait.
Et
ça peut avoir aussi des répercussions sur l'hydroélectricité, sur l'agriculture. Enfin, c'est pas évident, c'est pas toujours les mêmes impacts partout. Vraiment pas.
Alors, si on revient au Québec, ça représente quoi environ nos émissions? Parce qu'au début, on parlait des gaz à effet de serre. C'est quoi les émissions au Québec?
Ben donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que la majorité, ça va provenir du secteur des transports, 45%. Ensuite, l'industrie, 28%. Les bâtiments, 14%. Et donc, c'est pour ça que si on veut atteindre les objectifs de réduction que le gouvernement du Québec s'est donné, qui sont de 20% sous le niveau de 1990 en 2020, puis 37,5% en 2030 et 80 à 95% en 2050. On n'est pas parti pour faire ça pour le moment. Il faut qu'on agisse. Et donc, il faut s'attaquer au transport. Alors que, depuis 1990, les émissions dans le secteur des transports ont augmenté de 30%.
Alors qu'elles devraient, selon les objectifs, descendre.
Oui, on devrait descendre, mais pour le moment, on n'y arrive pas.
OK. Alors, tu nous parlais de l'automobile, en fait, des transports. J'imagine que l'automobile arrive en haut de la liste, là, dans les pollueurs, les polluants, ou les émetteurs de gaz à effet de serre.
Je ne sais pas si c'est le haut de la liste, mais si on regarde la consommation de carburant, ça, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Là-dedans, il y a aussi du carburant de l'industrie, des camions. Ben dans ce 70%, il y en a 35 qui proviennent des 4,5 millions de véhicules à combustion privés québécois.
James?
Tu disais, Ariane, que justement, les taux d'émission n'avaient pas vraiment descendu. Puis cette semaine, j'écoutais une session du Conseil municipal de Québec. La représentante de l'opposition, Anne Guérette, reprochait au maire Labeaume d'avoir, depuis plusieurs années, mis beaucoup d'argent dans des projets d'aménagement urbain, tout ça, pour favoriser une meilleure circulation. Bon, sans faire le tour de la question. Et elle disait, au fond, depuis quelques années, on a remarqué que non seulement les gens n'ont pas davantage pris les transports en commun, mais il y a d'autant plus d'automobiles à Québec. Donc, nécessairement, c'est une cause de ce que tu évoques, je pense.
Oui, il y en a vraiment beaucoup plus. D'ailleurs, si on regarde de 2006 à 2011, le parc automobile du Québec, il a une croissance qui est deux fois plus élevée que la population. Donc, les gens, c'est pas proportionnel à la population
du Québec.
Ah, ouais. Donc, c'est pas proportionnel à la population. La population utilise plus la voiture aujourd'hui.
Ah. Ninon?
Oui, dans le film Demain, il y a un architecte et urbaniste de Copenhague qui dit justement dans le film, si on construit des routes, les gens vont utiliser la voiture.
Tout à
si
fait.
On construit des pistes cyclables, les gens vont utiliser le vélo.
Et c'est où ça revient, on peut parler même de sujets d'actualité comme le fameux troisième lien à Québec. Tous les spécialistes s'entendent, les spécialistes plus en transport, mais même en économie, sur le fait que, et en urbanisme, que si on rajoute un lien de plus, des autoroutes de plus, d'ici quelques années, ça va juste favoriser un étalement urbain et une utilisation encore plus importante de l'automobile, en fait.
Alors, c'est quoi les alternatives?
Alors, il y en a beaucoup, des alternatives. mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une combinaison, vraiment, d'alternatives. C'est une stratégie intégrée de différentes choses.
Est-ce qu'il faut éliminer la voiture à essence?
Non, ça, c'est pas possible aujourd'hui pour le moment. Ça serait pas réaliste. Mais on peut encourager des modes de transport actifs, la marche, le vélo et alternatifs, bus, covoiturage, autopartage comme une auto, par exemple. Et on peut, justement, faire des infrastructures, aménager le territoire pour que les gens n'aient pas besoin de toujours prendre leur automobile. Si on est proche d'une épicerie, proche de son travail, proche d'une école, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin alors d'utiliser l'auto autant. Par contre, il y a des fois où c'est nécessaire d'utiliser l'automobile. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre l'emphase sur une électrification de l'automobile au Québec. Parce qu'on a de l'hydroélectricité, on a assez d'énergie. Il y a une idée reçue un peu qui dit que si tout le monde avait une voiture électrique, on n'aurait pas assez d'énergie pour fournir, mais ce n'est pas vrai du tout. Si, par exemple, on avait 100 000 voitures électriques au Québec, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, on est en dessous de 10 000, ça demanderait juste une augmentation de 0,5% de l'énergie électrique utilisée en ce moment.
Alors qu'on vend même beaucoup d'électricité à l'étranger.
Quand le problème, c'est le pic d'électricité. Si on rechargeait tous en même temps la voiture, là, ce serait un problème.
C'est assez peu probable.
Surtout qu'avec des compteurs intelligents à la maison, c'est possible de gérer ça.
Alex?
J'ai l'impression que Ben, moi, je trouve que la voiture électrique, en tout cas, c'est une des choses qui me rassure le plus. Je me dis, ben, c'est peut-être quelque chose de très concret qui pourrait se faire puis prochainement, mais j'ai l'impression que le principal obstacle à ça, il y a d'une part une forme de scepticisme. Malgré que les chiffres sont là, on continue à entendre, même à la radio, puis que le réchauffement de la planète, c'est pas si clair, c'est pas si sûr, puis c'est comme une forme ambiante. Puis bon, on l'a vu aussi à travers la politique un peu aux États-Unis. Et aussi, l'argument un peu drôle de la liberté individuelle, bah oui, t'es libre d'avoir une voiture électrique, moi j'ai libre d'avoir ma voiture à moi. Puis, en tout cas, dans tous les cas, il va falloir la rendre vraiment accessible, la voiture électrique, puis qu'elle coûte pas...
Mais justement, venons-y, Ariane, c'est pas hors de prix, une voiture électrique?
Non, c'est pas hors de prix. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une subvention au Québec de 8 000 $ à l'achat d'une voiture électrique, une neuve. Et donc... C'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler de la fameuse Tesla. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est 86 000 $ une Tesla. Puis ça permet d'avoir 400 km d'autonomie. Alors, on est tranquille, c'est sûr, mais c'est une voiture de luxe. Non, si on prend la moyenne des voitures 4 places de base électrique, c'est à peu près 35 000 $. Vous enlevez de ce 35 000 $ 8 000 $ de subvention. Puis, en plus de ça, c'est un investissement sur le long terme. Vous allez avoir 1 500 $ par an de moins d'essence. Votre assurance va vous coûter 20% moins cher. Vous avez beaucoup moins souvent à aller faire réparer votre auto, changer l'huile et tout ça parce que les composants ne sont pas les mêmes. Donc, il s'est même calculé que sur 10 ans, vous allez faire 15 000 $ d'économie par rapport à une voiture une voiture similaire, mais à essence.
Donc, 35 000, moins 8 000 de rabais gouvernemental, moins peut-être 15 000 $ d'économie. On se retrouve avec une voiture plutôt économique, finalement.
C'est ça. C'est accessible, en fait. Mais c'est juste qu'il faut le prévoir sur le long terme.
James?
Est-ce qu'avoir une voiture électrique, présentement, c'est fonctionnel? C'est-à-dire, est-ce que je peux me promener, tout ça, je dois trouver des bornes suffisantes?
En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de bornes si c'est pour une utilisation en ville. Parce que la majorité des voitures électriques vont avoir 100 km d'autonomie. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit en ville qui va faire 100 km sur une journée. Et en plus, ces voitures-là, comme elles ont une autonomie qui est juste de 100 km, il suffit de la brancher le soir, elle se recharge durant la nuit, à la maison, sur du 120 volts, et le lendemain matin, elle est prête à être utilisée.
Faut pas oublier de brancher.
Faut juste la brancher. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une borne de recharge rapide, forcément. Les bornes de recharge rapide, ça, c'est utile quand on veut faire des longs trajets, quand on veut prendre l'autoroute avec sa voiture électrique.
Et il y a une diversité de modèles, des minivans, des...
Ah oui, au Québec, il y a 18 modèles qui sont disponibles. Après, ceux qui sont plus gros, c'est souvent dans l'hybride. Par exemple, si vous avez une famille, que vous voulez une voiture 7 places, là, on va tomber dans de l'hybride. Les voitures électriques totalement électriques, qui sont spacieuses, c'est pas encore tout à fait disponible, mais il y a beaucoup de modèles qui vont sortir cette année et l'année prochaine. C'est sûr qu'on tombe plus dans le VUS, les voitures de sport plus chères, là, donc, mais ça va se développer avec le temps, je pense.
J'ai même vu qu'il y a une entreprise au Québec qui convertit les voitures à l'essence, à l'électricité.
Oui, et puis il y a même des gens qui font ça eux-mêmes chez eux dans leur garage, là, mais j'avoue que je ne connais pas trop les détails.
Il y a une question qui me vient aussi. On sait que pour faire une batterie, ça prend quand même de nombreuses composantes chimiques qui sont rares, qui sont... En fait, donc, c'est pas il n'y a pas un coût écologique nul à ce genre d'opération-là.
Non, il n'y a pas un coût écologique nul.
Pas se leurrer là-dessus. Là.
Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que lors de la construction de la voiture électrique, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Plus que pour une voiture à combustion. Mais c'est dans l'utilisation que vraiment, là, il n'y a plus du tout d'émissions, en fait.
James?
Ne devrait-on pas, à ce moment-là, favoriser l'achat et la réutilisation de vieilles voitures plutôt que d'en construire de nouvelles?
Mais les vieilles voitures, le problème, c'est qu'elles émettent vraiment beaucoup de gaz à effet de serre. C'est sûr que si quelqu'un est capable de... on peut améliorer certaines voitures, c'est sûr, mais les normes ont quand même beaucoup changé. Je pense notamment au Québec, il y a des normes qui ont beaucoup changé depuis 2011 pour faire en sorte que justement les vieilles voitures soient plus là ou que les nouvelles voitures n'émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre.
Alex,
je sais pas à quoi tu penses comme vieille voiture, mais il y a aussi les normes de sécurité
aussi.
Qui augmentent énormément. Donc, il y a une grosse différence entre une voiture des années 90 et une voiture des
années 2000. Ça dépend vraiment de l'utilisation, en fait. C'est de même que le choix entre une hybride et une électrique, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Si c'est acheter une voiture électrique pour que ce soit la deuxième voiture qu'on va utiliser de temps en temps, ce n'est pas un bon investissement. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens qui achètent une électrique comme deuxième voiture, généralement, ça devient leur première voiture parce qu'ils avaient peur de manquer d'autonomie, mais finalement, ils en ont assez. Si on utilise beaucoup l'autobus, le vélo, c'est peut-être pas idéal non plus d'opter tout de suite vers une électrique parce que elle va, si c'est pour qu'elle reste au garage tout le temps. Mais donc, ce qu'il faut retenir, il faut avoir une panoplie de stratégies pour diminuer nos émissions dans le domaine du transport et l'électrification, ça en fait partie.
Ça fait partie d'une stratégie globale qui inclut toutes sortes d'autres moyens.
Oui,
aussi.
On ne peut pas juste remplacer toutes nos voitures par des voitures électriques, ça ne réglera pas le problème.
Alors, merci beaucoup, Ariane Beauferré. Tu nous parlais du transport et des changements climatiques et spécialement de la voiture électrique. On peut lire ta chronique Petite économie qui parle d'écologie et d'économie dans le magazine Le Verbe et t'entendre ici régulièrement à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Ariane.
Merci.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.